With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire autour du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro. On reviendra tout d'abord sur la performance un petit peu embêtante de l'équipe de France face au Danemark avec Elton Mokolo, notre spécialiste du football français. Et on se posera une question autour du cas Mbappé, finalement quelle est sa meilleure position ? On ira ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair pour parler du cas Gareth Southgate, très très critiqué outre-Manche alors que se profile la Coupe du Monde. Que se passe-t-il autour des Three Lions et l'Angleterre peut-elle vraiment changer de coach ? On verra ça avec lui. Et on terminera l'émission par évoquer la crise traversée par l'équipe féminine espagnole avec Ana Caro, notre spécialiste du football espagnol. On verra que finalement la fédération espagnole a un rôle trouble dans l'affaire. Et que les défis sont importants pour cette équipe espagnole. Voilà, Tour d'Europe est à retrouver chaque lundi sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si vous voulez voir les meilleurs moments, rendez-vous sur le site d'Eurosport pour voir tout cela en vidéo. Vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti. On va parler évidemment, et on commence ce Tour d'Europe, par rester en France parce que les Bleus ont subi une défaite embêtante face au Danemark dimanche, une défaite 2-0. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du football français. Elton, comment ça va ? Comment tu as vécu cette défaite et ce rassemblement tricolore ?
Déjà bonjour Cyril. Alors comment j'ai vécu cette soirée de l'équipe de France ? Elle avait bien commencé avec 20 premières minutes intéressantes où Schmeichel est mis à contribution par Mbappé et par Antoine Griezmann. Ensuite petit à petit le Danemark arrive notamment à rentrer dans son match et est au-dessus avec notamment les buts de Kasper Dolberg, un ancien de la Ligue 1. Et ensuite Skov Olsen qui a fait un vrai bon match. Donc l'équipe de France est rapidement passée d'une bonne entame de match à une suite qui a été vraiment compliquée avec des défaillances individuelles qui ont lieu au collectif.
C'est marrant parce que la semaine passée, on parlait du bilan du Paris Saint-Germain et on se disait, en dehors du 11 type, il manque peut-être cette profondeur de banc. On a une problématique qui vient s'imposer un peu de manière similaire avec les Bleus, à savoir que les seconds couteaux qu'on a vus sur ce rassemblement ne sont pas tous au niveau espéré ou en tout cas pas aussi tôt que prévu. Je pense à un Camavinga ou un Upamecano qui sont passés à côté lors de ce match.
Le maillot de l'équipe de France championne du monde pèse lourd pour certains joueurs. On a beau jouer au Real Madrid ou au Bayern comme Camavinga ou Upamecano, quand on arrive en équipe de France et qu'on doit performer encore plus sur un match qui était très important pour le maintien, bon, finalement l'équipe de France est maintenue, ça reste quand même compliqué. Donc on voit bien qu'il y a une marge de progression encore pour ces joueurs en devenir en ce qui concerne l'équipe de France.
Est-ce qu'il faut être inquiet, Elton ?
Est-ce qu'il faut être inquiet ? Factuellement, il reste plus de matchs avant la Coupe du Monde. Donc par rapport à ça, voir l'équipe de France qui a gagné un match sur ces 6 derniers matchs, on est sur la moins bonne série depuis 1958 avant une Coupe du Monde, c'est pas de nature à nous rassurer. Maintenant, il y a la qualité brute pour se dire que à l'occasion de la Coupe du Monde, notamment sur le premier tour, l'équipe de France peut s'en sortir.
Le prochain grand moment autour des Bleus, ce sera évidemment la liste de Didier Deschamps. Il a la possibilité d'en appeler 26. Dans ces 26, c'est ce que tu mets Olivier Giroud ?
Alors moi, je serais parti sur prendre Olivier Giroud, bien évidemment, parce que l'équipe de France a besoin de buts. Et Olivier Giroud, qui est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, factuellement, pour moi, il doit être dans ce groupe.
Pareil, même question pour Ousmane Dembélé, pour Eduardo Camavinga, pour Upamecano. Quel type de liste il faut s'attendre de la part de Didier Deschamps ?
Alors pour moi, ça va être très intéressant, notamment la confection de la liste de Didier Deschamps, à savoir, est-ce qu'il va prioriser une liste qui va favoriser notamment le système à 3 défenseurs, absolument, ou alors il va revenir à un système beaucoup plus classique, et auquel cas, il y a des joueurs qui pourraient être, entre guillemets, embêté par cette liste, à savoir que si Didier Deschamps revient à un système beaucoup plus classique, il n'est pas pertinent d'emmener beaucoup de défenseurs.
Ouais, tout à fait. Il y a l'avantage de Didier Deschamps, c'est qu'il a des joueurs qui peuvent jouer à la fois sur le côté et parfois en centrale. Je pense évidemment à Lucas Hernandez ou à Benjamin Pavard de l'autre côté qui peuvent entre guillemets, occuper soit une position de latéral, soit dans une défense à 4, soit une position de défenseur central dans une défense à 3. Elton, il y a un joueur qui a capté encore une fois toute la lumière sur ce rassemblement tricolore, c'est Kylian Mbappé. Alors, il y a eu ce début de rassemblement avec cette question de droit à l'image. Nous, on va parler terrain. Elton, si tu le veux bien, avec cette déclaration de Kylian Mbappé après son très bon match face à l'Autriche et ce but incroyable. Cette déclaration où il explique petit à petit et grosso modo surtout qu'il a plus de liberté en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, déjà factuellement et de visu, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi en le voyant jouer avec les Bleus ?
Cyril, tout est une question de contexte dans le football. Quand tu regardes le PSG, il y a quand même des joueurs qui sont vraiment autonomes, à savoir Neymar, bien évidemment, Marco Verratti, Nuno Mendes aussi, qui est très porté vers l'avant. Donc forcément, le ballon, il n'arrive pas forcément tout de suite vers Kylian Mbappé. En équipe de France, on est déjà sur un football de sélection, c'est quand même différent, à savoir que le rythme est un peu plus bas et Kylian Mbappé a une liberté qui est beaucoup plus importante. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un contraste. Et c'est vrai que du côté du PSG, si on se fie à ce qui se passe du côté du PSG, il y a quand même de sacrés joueurs et donc il faut quand même partager le ballon. En équipe de France, il y a aussi de sacrés joueurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la liberté de Kylian Mbappé, la liberté technique et la liberté tactique de Kylian Mbappé est beaucoup plus étendue.
Et est-ce qu'il faudrait au Paris Saint-Germain, et c'est un petit peu le sens de l'intervention de Kylian Mbappé, il faudrait un attaquant qui fixe davantage les défenses à la manière d'un Olivier Giroud. On sait que cet été, il y avait eu la piste Scamacca, il y a eu un temps la piste Lewandowski avec l'idée d'associer les deux. Est-ce que tu penses que ce serait la meilleure version d'Mbappé que d'avoir avec lui ce numéro 9 qui pèse un petit peu sur les défenses et que lui puisse se balader autour ?
Aujourd'hui, Cyril, sur le plan factuel, cet attaquant là n'est pas là du côté du PSG et donc par rapport à ça, ils font une adhésion collective. Il y a eu la BBC, il y a eu la MSN, il y a eu des compromis, à savoir Lionel Messi qui a joué faux neuf à un moment donné du côté du Barça. Quand Luis Suarez est arrivé, il s'est replacé sur l'aile droite. C'est ça le football, à savoir qu'il faut des compromis et Kylian Mbappé ne va pas déroger à la règle. Aujourd'hui, il y a Messi, il y a Neymar, il y a Kylian Mbappé. Il faut composer en fonction notamment de ce que le coach propose et surtout comment les joueurs peuvent se disposer.
On s'est amusé à comparer les heatmaps de Kylian Mbappé lors de son dernier match avec le Paris Saint-Germain, à savoir ce déplacement face à l'OL son match face à l'Autriche qui était un match plein, le match face au Danemark est une parenthèse qu'on a envie d'oublier. Il y a un contraste qui ressort assez nettement, c'est... Il touche plus de ballons avec les Bleus et surtout, il est sur ce côté gauche qu'il adore et qu'il affectionne et qu'il utilise systématiquement un peu en rampe de lancement. Est-ce que c'est impossible de voir ça avec le Paris Saint-Germain, sachant que c'est une position où un certain Neymar brille depuis le début de saison ?
Encore une fois, le contexte définit les choses, à savoir que face à l'Autriche, sur le côté gauche, on a vu un Ferland Mendy qui était un peu plus attentiste que d'habitude. Oui. On a pu voir un Mbappé qui a pu notamment se déplacer comme il le voulait. Il y a aussi Antoine Griezmann qui, pour les compensations, était très important. Du côté du PSG, demander des compensations à Neymar, à Nuno Mendes, c'est un peu plus compliqué. Donc, par rapport à ça, on en revient toujours à l'idée de contexte, à savoir qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus autonomes du côté du PSG qu'en équipe de France et que Kylian Mbappé, il doit composer avec ça.
Donc, on est d'accord. Si je comprends et si je résume ce que tu nous dis, ce n'est pas au Paris Saint-Germain de se plier aux demandes de Kylian Mbappé, c'est à Kylian Mbappé de se plier aux joueurs à disposition de Christophe Galtier et notamment aux spécificités de Neymar et de Messi qui sont plus du tout adaptés pour jouer en pointe.
Exactement, à savoir qu'encore une fois, le football reste un sport collectif et Kylian Mbappé doit se mettre au diapason et il le fait de très bonne manière et donc je vois pas pourquoi il ne continuerait pas ainsi.
Est-ce que, dernière petite question, parce qu'on a vu les stats de Kylian Mbappé cette saison avec le PSG, il y a déjà 10 buts, il n'y a pas encore de passes décisives, on sait que ces dernières saisons c'était justement quelque chose qui le définissait, c'est que c'était devenu un joueur total où il jouait beaucoup aussi à la dernière passe. C'est une question de contexte, parce qu'on lui demande justement d'être juste là pour finir, ou c'est quelque chose qui peut poser problème à l'avenir pour le Paris Saint-Germain ?
Cyril, la saison dernière, la nature a horreur du vide. Ouais. Neymar n'était pas souvent là, Messi à un moment donné a été absent, donc forcément Kylian Mbappé était davantage libre dans ses mouvements, et donc on a vu qu'il a quand même terminé meilleur passeur. Cette saison, Neymar est beaucoup plus présent, Messi est beaucoup plus régulier, et donc ça change la donne. Donc par rapport à ça, Kylian Mbappé a un rôle un peu moins important, notamment sur la contribution du PSG avec ballon. Et donc forcément, il est dans un rôle davantage dédié au but. Et donc par rapport à ça, ça joue notamment sur son rendement. Et maintenant, il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, la saison dernière, il termine meilleur passeur. Donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire la même chose, à savoir... On est encore qu'en début de saison, on a moins de 10 matchs. Et donc par rapport à ça, je vois Kylian Mbappé rapidement avoir des passes décisives pour lui.
Voilà pour la page bleue. Elton, je manque à toutes mes obligations puisqu'on avait promis d'évoquer aussi une petite décla qui t'a un petit peu énervé cette semaine. On sort du cadre équipe de France et on revient, on se projette sur la Ligue 1 qui reprendra dès le week-end prochain avec cette décla de Vincent Labrune qui, dans les 5 ans qui viennent, si j'ai bien lu, espère voir la Ligue 1 parmi le top 3 européen, des 3 meilleurs championnats européens. Est-ce qu'il est complètement fou? Est-ce que c'est réaliste d'avoir ce genre de discours quand on est... à ces responsabilités-là.
Là, pour le coup, Cyril, ce n'est pas une déclaration tronquée parce que j'étais en direct quand il l'a dit à l'occasion du festival Demain le Sport, à savoir que niveau articulation, il faut faire très attention parce que d'un côté, il y a Vincent Labrune qui nous explique qu'il y a une situation qui est quand même alarmiste. La France, 5e au classement UEFA, a porté tir du Portugal et des Pays-Bas. Et ensuite, il t'explique 2 minutes plus tard que la France, à l'horizon 2028, doit être top 3. Top 3 UEFA, la 3e place étant détenue par l'Allemagne. Et donc, par rapport à ça, c'est toujours des effets d'annonce. Il faut que ça soit suivi d'actes. Aujourd'hui, on est sur une saison qui est charnière pour le football français, à savoir que pour l'attribution des places, notamment pour la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, il faut absolument que la France reste dans le top 5. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'horizon 2028, il est beaucoup plus probable que la France remporte une Coupe d'Europe plutôt que la France soit top 3 UEFA.
D'accord. Donc, grosso modo, on mise tout sur le Paris Saint-Germain et on voit ce qui se passe derrière.
On mise tout sur Paris Saint-Germain, comme on peut miser un degré moindre sur l'Olympique de Marseille, sur l'Olympique Lyonnais, sur plusieurs Coupes d'Europe, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 Coupes d'Europe. La Ligue des Champions, l'Europa League et la C4.
On verra...
La Conférence League.
La Conférence League, ouais. On verra si les annonces de Vincent Labrune sont suivies de faits. On va tourner la page française. Merci beaucoup, Elton. Et on va partir...
Merci à toi, Cyril.
...en Angleterre pour parler d'un sélectionneur sous le feu des critiques, Gareth Southgate. On arrive donc en Angleterre et on retrouve notre correspondant Philippe Auclair. Salut Philippe, comment ça va et comment s'est passée ta semaine anglaise ?
Moi ça va, mieux que l'équipe d'Angleterre, ça va beaucoup mieux que Gareth Southgate. Disons qu'on avait senti le coup venir, mais qu'on a malgré tout reçu une claque contre cette équipe d'Italie. Certes, bon... Après ce qui s'était passé contre l'Anglais, ce qui se passe depuis le début de cette Nations League, ce n'est pas vraiment totalement une surprise. Mais on espérait qu'il y aurait un réveil, parce que bon, avec cette Coupe du Monde qui est placée à un moment tellement particulier dans le calendrier, en fait, on n'aura pas de match d'échauffement. D'habitude, on a toujours des matchs d'échauffement où on peut faire un peu passer les troupes en revue, etc. Là, c'est maintenant ou jamais. Or, c'était contre l'Italie, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, c'est contre l'Allemagne à Wembley. Un match, on va espérer que ça se passe mieux et puis on va espérer également que le public se rangera du côté de son équipe et qu'on n'entendra pas à nouveau ce qu'on a entendu donc, à San Siro lorsque Gareth Southgate est venu saluer les supporters anglais qui s'étaient déplacés en nombre. Bon, il y a eu des applaudissements, mais il y a surtout eu des sifflets et des huées. Et quand on pense où était cette équipe d'Angleterre encore au mois de juin dernier, avant d'entamer ce programme au passage complètement délirant, hallucinant de Nations League où ils ont eu 4 matchs en quoi 11 jours où les joueurs étaient sur les rotules absolument épuisés. Et ce qui est étonnant quand même, tu vois, c'est que à l'époque on s'était dit bon, ils font match nul, ils perdent, c'est pas grave parce qu'en fait nos joueurs sont complètement lessivés. Ils ont joué les grandes compétitions jusqu'à la fin, toute fin du calendrier, puisque bien évidemment les joueurs anglais sont dans les top équipes européennes. Ils sont donc épuisés, aucune envie, c'est de partir en vacances et se reposer un petit peu. Et puis là, ce match contre l'Italie, on aurait peut-être dû le voir dans cette lumière, mais ce n'est pas comme ça. En fait, on l'a vu comme étant dans la lignée de ce qu'on avait vu au mois de juin. Et franchement, ce qu'on a vu était pas franchement formidable.
Alors, évidemment, tout se cristallise quasiment autour du cas Gareth Southgate. Le Sunday Times a sorti un édito hier assez offensif. Je vous lis la phrase parce qu'elle est assez violente. « Southgate n'est pas devenu un mauvais manager du jour au lendemain. Il l'a toujours été. Qu'est-ce qui se passe autour du cas Gareth Southgate et pourquoi il est aussi critiqué, tout simplement, alors que l'Angleterre a fait finaliste de l'Euro et que Southgate a réussi à ramener cette sélection à une place bien plus convenable.
Ce commentaire du Sunday Times, je le précise tout de suite, ce n'est pas un commentaire que tout le monde ferait ici. C'est une ligne éditoriale qui est en train de monter en puissance, mais c'est normal. Depuis le temps que les reporters anglais, qui n'aiment rien de mieux que défoncer leur sélectionneur, attendaient que le moment se présente. Et Southgate leur avait pas donné l'occasion auparavant, parce qu'il arrive dans cette équipe d'Angleterre qui vient de se débarrasser de Sam Allardyce, qui s'est fait piéger par des journalistes. Il arrive, il n'y a personne d'autre pour prendre le job. Mine de rien, 2 ans plus tard, l'équipe d'Angleterre se retrouve en demi-finale du Mondial. Elle est également en demi-finale de la Nations League. Elle parvient en finale de l'Euro. En fait, il fait un parcours quasiment sans faute. Alors, de temps à autre, on va faire une petite critique, on va émettre quelques réserves, bien sûr. Mais cette presse anglaise qui a tellement l'habitude de pouvoir rentrer dans le lard de ses sélectionneurs, là, toute sa frustration est en train de sortir. Moi, je dirais que c'est un petit peu comme ça qu'on voit. Et ce commentaire, il a toujours été un mauvais manager. Bon, c'est une phrase facile, c'est une phrase qui frappe, hein, c'est certain.
Oui.
Mais c'est une phrase facile. Non, il n'a pas été un mauvais manager avec l'équipe d'Angleterre. En fait, il a été le meilleur manager de l'histoire de l'équipe d'Angleterre après Alf Ramsey, au niveau des résultats. Au niveau de la manière, c'est peut-être autre chose. Peut-être qu'il n'est pas aussi bon que Bobby Robson ou que quelques autres, même voire Sven Göran Eriksson. Mmh. Mais malgré tout, pour ce qui est des résultats, c'est le deuxième entraîneur, le deuxième meilleur entraîneur, entre guillemets, de l'équipe d'Angleterre. Mais bon, c'est vrai, le ton a changé. Il le sait. D'ailleurs, quand il s'est adressé aux médias avant ce match, le match de ce soir contre l'Allemagne, il a dit très clairement, je sais très bien que ce n'est pas parce que j'ai renouvelé mon contrat jusqu'en 2024 que je suis intouchable et que si jamais on va entièrement me juger sur ce que l'Angleterre va faire à la Coupe du Monde au Qatar, si c'est un échec, je partirai, je le sais. Donc, de ce côté-là, les jeux sont faits pour ce qui est des enjeux. Par contre, pour le reste, on se demande encore à quoi va ressembler cette équipe d'Angleterre. Parce que tu sais, Cyril, mine de rien, dans quel état était l'équipe de France avant le Mondial de 98 ?
Ouais.
Dans quel état était l'équipe d'Italie avant le Mondial de 2006 ? Bon, et on a vu que les choses peuvent se passer totalement différemment dans la compétition.
Absolument. Le cas Southgate, c'est aussi pour nous l'occasion, Philippe, de t'interroger peut-être sur la place des entraîneurs anglais dans le football anglais actuellement. On sait que ça a été pendant longtemps un débat autour des joueurs. Là, quand on regarde la Première Ligue, c'est quand même le championnat avec les meilleurs entraîneurs au monde et ils sont quasiment tous étrangers. Il y a Pep Guardiola à City, il y a Jurgen Klopp à Liverpool, Antonio Conte à Tottenham. C'est une tradition qui s'est installée depuis plusieurs années. Est-ce que, si d'aventure ça venait à mal se passer pour Gareth Southgate lors du Mondial, il y a vraiment de quoi faire pour avoir un sélectionneur anglais qui soit incontestable, on va dire ?
Je crois qu'on a un petit peu fait le tour du pâté de maison. Et puis, parce que prendre la succession de Gareth Southgate, bien évidemment, c'est un cadeau un petit peu empoisonné. Bien
sûr.
Le choix évident jusqu'à il y a pas très longtemps aurait été Graham Potter, qui fait un travail absolument magnifique, qui faisait un travail absolument magnifique à Brighton. J'ai du mal à utiliser ça en imparfait, mais qui est maintenant à Chelsea, vient d'arriver, il ne va pas partir de Chelsea. Si on regarde parmi les autres jeunes entraîneurs anglais, bon, il y a Eddie Howe à Newcastle, mais j'imagine difficilement Eddie Howe quitter un job dans un club qui, pour les raisons que l'on sait, va devenir extrêmement compétitif dans les mois, et pas seulement les années, mais les mois à venir. Donc voilà, les deux candidats principaux, il y a encore un an, ils sont maintenant pris.
Et Gerard Lampard,
alors, il y en a un autre qui... Oui, il y a Frank Lampard. Bon, mais Frank Lampard, excusez-moi, mais ce n'est pas fantastique à Everton. Il y a Steven Gerrard, mais ce n'est pas fantastique non plus. Mais bon, même si ce sont des noms qui ont évidemment beaucoup de sens au niveau de l'équipe d'Angleterre. Donc, tu veux, il y a des possibilités. Il y a un autre entraîneur qui, à mon avis, devrait être disponible dans pas très longtemps, qui est un excellent entraîneur, qui est Brendan Rodgers, qui n'est pas anglais, mais irlandais du Nord et qui a fait toute sa carrière en Angleterre. Donc, il y a quelques noms possibles, mais c'est compliqué. Cela dit, n'oublions pas une chose, c'est que le football anglais, de par le passé, adressé à des étrangers.
Oui.
Ça n'a pas été franchement une catastrophe. Sven Göran Eriksson, on ne lui a jamais pardonné d'aller au-delà des quarts de finale des grandes compétitions, mais quand même, faire quart de finale du Mondial 2 fois, quart de finale de l'Euro, ce n'est pas quand même donné à n'importe qui. Fabio Capello, ça s'est mal terminé, mais on pourrait dire, bon, ça s'est mal terminé parce qu'il y a un but valable pour Frank Lampard qui n'a pas été attribué en Afrique du Sud. Donc, ils peuvent se tourner vers des techniciens étrangers, des techniciens qui sont actuellement au chômage, comme Mauricio Pochettino, par exemple, parce que l'équipe d'Angleterre a une spécificité, elle a les moyens de pouvoir payer les mêmes salaires que les plus grands clubs européens. À savoir qu'un salaire de 10 à 12 millions de livres sterling, bon, on va dire 10-12 millions d'euros parce que vu la façon dont la sterling est en train de plonger sur les marchés, mais ils peuvent se permettre ce type de salaire, ce que bien évidemment la plupart des autres sélections ne peuvent pas. Donc, ça ouvre un petit peu les perspectives. Mais on n'en est pas encore là. De toute façon, Gareth Southgate, même si l'équipe d'Angleterre perd ce soir contre l'Allemagne, ira au Qatar avec son entraîneur actuel. C'est après qu'il faudra réfléchir et voir s'il faut le remplacer. Si ça ne se passe pas trop mal au Qatar, il continuera donc jusqu'en 2024. Et se passer pas trop mal, à mon avis, c'est minimum quart de finale, minimum quart de finale, et c'est plutôt demi-finale, voire finale. Parce que l'équipe d'Angleterre fait malgré tout partie des favorites pour cette compétition. Je crois que pour les bookmakers, c'est le troisième favori, derrière le Brésil, la France. Oui. Je sais. Même la France d'aujourd'hui, c'est étonnant. Avec tous ces blessés, ces résultats en dents de scie. Mais la France, malgré tout, et puis l'Angleterre est dans ce peloton de tête avec quelques autres pays comme l'Argentine, l'Allemagne et l'Espagne, les suspects habituels, on va dire. Mais l'Angleterre est placée très haut. Donc, l'attente est extrêmement importante, surtout qu'on a maintenant toute cette jeune génération qui est arrivée. À la différence de l'équipe de France, nous n'avons pas de sérieux problèmes de blessures. Les seuls blessés pour cette rencontre, ces deux rencontres de Nations League, c'était Jordan Pickford qui va revenir.
Ouais.
Et puis Calvin Phillips également, qui ferait du bien, qui ferait beaucoup de bien en milieu de terrain. Mais sinon, l'effectif est au grand complet. Mais il y a des choix également qui font beaucoup jaser. C'est le fait que, par exemple, contre l'Italie, c'est pour ça qu'on va regarder sa composition d'équipe. Oui. On va regarder ça à la
loupe. Bukayo Saka notamment, c'est ça.
Bukayo Saka qui était en piste. Piston gauche dans un 3-4-3, un rôle qu'il n'a jamais à Arsenal, il paraissait complètement perdu. Arsenal, il joue à droite, hein, de toute façon. Et il joue ailier dans un 4-2-3-1 ou attaquant, on va dire, désaxé sur le flanc droit. On voit, il fait appel à Harry Maguire, qui d'ailleurs fait un début de match absolument catastrophique, mais qui ne joue plus avec Manchester United. Il a fait entrer en jeu, quand il passe à 4 derrière, il fait entrer en jeu Luke Shaw, qui, si je ne m'abuse, n'a pas joué depuis le 13 août avec Manchester United. Kyle Walker a bu la tasse complètement dans cette défense à 3. Et on peut continuer comme ça. Harry Kane n'était pas bien. Sterling n'était pas bien. Foden, ça allait. En fait, le seul... on parle de bémol dans quand les choses vont bien, on va parler de dièse quand les choses vont mal. Le seul dièse, c'est Jude Bellingham de Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, bon, qui est un magnifique joueur et qui a été absolument superbe. Mais donc, ce match contre l'Allemagne, super, super important pour voir non seulement la qualité de la performance, mais également comment Gareth Southgate va aligner cette équipe, qui il va choisir, s'il a tiré les leçons qu'on estime nécessaires ici de ce que l'on a vu contre l'Italie et qui était franchement plus que décevant. On a l'impression que l'Angleterre régresse. C'est encore, on retrouve, Cyril, tu sais, l'Angleterre d'autrefois, qui, lorsqu'elle a le ballon, ne sait pas quoi en faire. Et regarde les joueurs qu'il y a, ce sont tous des joueurs de très, très grand talent,
créatifs,
dans le cas de certains d'entre eux, de classe mondiale. Mm-hmm. Et tout d'un coup, ils perdent leur football lorsqu'ils se retrouvent avec le maillot de l'équipe d'Angleterre sur le dos, plutôt que celui de Man City, Tottenham ou Arsenal. Et ça, c'était ce qu'on vivait avec l'équipe d'Angleterre, je dirais, de manière presque constante à travers tous les grands tournois. Avec Southgate, on commençait à ne plus le vivre jusqu'au mois de juin dernier. Et puis là, il va falloir trouver un nouvel élan, un nouveau souffle. Et c'est là où on va voir si Gareth Southgate est un bon manager ou pas.
Eh ben, on suivra évidemment le feuilleton dans Tour d'Europe en vue du Mondial. Merci beaucoup, Philippe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on va parler d'une autre fédération qui est dans la tourmente. C'est la Fédération espagnole autour de l'équipe féminine espagnole. Et on termine ce Tour d'Europe par aller en Espagne. On accueille Ana Caro, notre spécialiste du football espagnol. Comment ça va, Ana ? Comment s'est passée ta semaine espagnole ?
Alors ça va très bien, malgré la défaite de la Roja contre la Suisse là, lors des matchs de Ligue des Nations. Une première défaite à domicile depuis très longtemps pour la Roja, avec une équipe qui était, comme d'habitude, avec beaucoup de possession de balles, mais très peu d'attaques, très peu de tranchants finalement dans une attaque qui n'est pas titulaire en club.
On a vu notamment Marco Asensio utilisé comme avant-centre. On ne verra pas ça à la Coupe du Monde, rassure-nous.
Non, non, il y a assez peu de chance. Okay. Surtout, je pense que là, on a vu qu'il manquait vraiment un point d'appui. Luis Enrique a fait rentrer Borja Iglesias en seconde période et on a vu la Roja beaucoup mieux jouer quand Borja Iglesias est rentré. Donc, je pense qu'on aura tendance à davantage voir un point d'appui, que ce soit lui ou Morata pendant le mondial.
Dernière question sur le cas Luis Enrique. Pendant toute cette émission, on a parlé des sélectionneurs qui sont sous le feu des critiques en Europe. Flick, même Deschamps, évidemment Southgate. Qu'est-ce qu'il en est de l'état de l'opinion autour de cette équipe de Luis Enrique et du personnage Luis Enrique en Espagne? Est-ce qu'on lui fait confiance pour ce mondial?
Alors Luis Enrique, c'est un peu toujours la même rengaine en Espagne, c'est-à-dire que les médias madrilènes vont critiquer Luis Enrique, vont pointer plein de défauts, etc. Là, le fait que la défaite soit à domicile, ça a un impact hein, quand même sur l'opinion publique en Espagne, surtout que le match était à guichet fermé, etc. Malgré tout, Luis Enrique, il a ses têtes, il a ses choix, il sait très bien où il va. Et il peut très bien perdre ce match contre la Suisse, mais gagner celui qui sera là demain contre le Portugal, qui est une finale pour la place en Final Four de Ligue des Nations.
Absolument.
Donc, il y a de l'inquiétude d'une certaine partie, mais de l'autre, on sait que c'est un peu la routine, c'est Luis Enrique perd, et puis il revient, donc tout se passe bien.
Alors, Anna, on voulait parler avec toi d'une autre crise qui secoue le football espagnol. C'est autour de cette équipe féminine, une des meilleures nations au monde, n'ayons pas peur des mots en termes de potentiel. Il y a évidemment Putellas qui est un peu le symbole, la Ballon d'Or passée. Et pourtant, cette équipe, elle traverse une crise majeure avec ce mail envoyé par 15 joueuses, rédigé de manière commun, expliquant que grosso modo elle se mettait en retrait de la Roja le temps que des décisions soient prises par la fédération. Ce à quoi la fédération a répondu nous, on ne va rien changer, surtout pas le sélectionneur Roger Vilda qui est sous le feu des critiques. Explique-nous un petit peu tout ce qui s'est passé et le contexte de cette crise naissante pour l'équipe féminine.
Alors, c'est un mail auquel on pouvait plus ou moins s'attendre. Parce qu'on a vu que lors du dernier rassemblement, donc c'était fin août, il y avait deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, mais les Espagnols étaient déjà qualifiés. Et à ce moment-là, il y a eu des choses qui se sont dites finalement. Irene Paredes, qui est la capitaine de la sélection espagnole, qui a pris la parole au nom de tout le vestiaire pour dire certaines choses à Jorge Vilda. Le problème, c'est que Jorge Vilda n'a pas voulu du tout entendre les plaintes des joueuses. Donc les joueuses sont allées voir plus haut, c'est-à-dire au président de la fédération qui s'appelle Rubiales. Et lui n'a pas voulu non plus les écouter et a même appuyé, renforcé le sélectionneur qui est pourtant très très critiqué. Dans ce contexte-là, on avait vu donc Irene Paredes, par exemple, quitter l'entraînement en pleurant. Derrière, il y avait une conférence de presse où Jorge Vilda avait dit qu'il ne se sentait absolument pas menacé, qu'il avait le soutien de sa fédération, qu'il se sentait même encore plus fort aujourd'hui en étant menacé. Derrière, on avait eu Irene Paredes qui, elle, avait dit non, on n'a jamais demandé la tête du sélectionneur. Mais derrière, on a Patrick Guerrero et Jenny Hermoso, qui sont aussi deux internationales très capées, qui avaient dit qu'il fallait se dire les choses, que des fois, il y a des choses qui ne sont pas belles à entendre, mais qu'il faut les dire, finalement, pour que les choses avancent. Et donc, on arrive à cette situation. Les deux matchs ont été gagnés. Mais derrière, évidemment, là, il y a un rassemblement début octobre, une nouvelle liste qui va tomber et les joueuses ont un peu devancé cette fameuse liste pour demander du changement.
Alors, ce changement, la fédération ne semble pas spécialement enclin à leur accorder. Les Espagnols ont reçu un soutien international qui a dépassé en tout cas les frontières de l'Espagne, notamment avec Alex Morgan ou Megan Rapinoe qui ont pris fait et cause pour leur lutte, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour la suite? Est-ce qu'on n'est pas un peu face à ce qui s'est passé chez les Bleus de Corinne Diacre, à savoir des joueuses qui ont du mal avec leur sélectionneur, mais qui vont devoir composer avec, malgré tout, dans les semaines et dans les mois qui viennent?
Mais là, c'est surtout qu'on va arriver sur des semaines décisives, parce qu'il faut se rappeler que dans 8 mois, il y a le Mondial féminin. Et que les joueuses qui étaient là à l'Euro et qui ont toujours cette défaite contre l'Angleterre un peu amère hein, en quart de finale, parce qu'elles ont été au niveau pendant toute la rencontre et ont fini par perdre.
Et il leur manquait Putellas en plus.
Et il leur manquait Alexia Putellas, donc c'est dire un peu le potentiel de cette sélection. Aujourd'hui, la sélection doit régler le problème le plus rapidement possible, justement en vue de ce mondial. Les joueuses qui portent les réclamations actuellement, ce sont des joueuses qui ont elles-mêmes, en 2015, porté les réclamations de tout un groupe À l'époque, c'était Quérada qui était sélectionneur, Ignacio Quérada, qui lui était en poste depuis 27 ans. Donc voilà, okay. Ça fait un petit moment. Et elle-même avait demandé à ce qu'il y ait des changements pour que, en fait, toute la sélection, et y compris le football féminin dans son ensemble, progresse et aille vers la professionnalisation. Quand elles avaient demandé à l'époque à ce que Ignacio Quérada s'en aille, à l'époque déjà, la fédération avait dit non, c'est hors de question, on soutient notre entraîneur, etc. Finalement, 42 jours après le communiqué des joueuses, qui avait elle aussi déjà annoncé à l'époque qu'elle boycotterait la sélection tant qu'il n'y aurait pas de changement, le sélectionneur Quérada a posé sa démission. Donc on peut s'attendre peut-être à un déroulé similaire.
On rappelle ici que l'Espagne est un pays en pointe dans le développement du football féminin. Le FC Barcelone bat des records d'affluence chaque saison quasiment. Est-ce qu'il y a le risque que Rubiales, qui est donc un personnage de plus en plus central du football espagnol, s'arc-boute et finalement n'accède pas au désir de ses joueuses?
Alors, c'est à remettre aussi dans le contexte justement de cette progression du foot féminin qui à la base avait été portée par la fédération. Et aujourd'hui, avec la professionnalisation donc, du championnat, oui. On se rend compte que la fédération n'avait pas tant de ça envie que le football féminin se développe, puisque la Ligue, en se professionnalisant, a eu son entité propre en dehors de la fédération. D'accord. Et la fédération, depuis le début de cette Ligue, a constamment mis des bâtons dans les roues pour que cette Ligue commence. On se rappelle que la Ligue a commencé avec une journée de retard en raison d'une grève des arbitres qui avait été provoqués ou pas, mais des arbitres qui étaient rattachés à la fédération. Donc on se demande s'il n'y a pas un lien avec tout ça. Aujourd'hui, il y a la question des salaires, puisque les arbitres ont été augmentés, mais que les joueuses, elles, touchent moins d'argent que les arbitres. Il y a la question des cartons rouges et jaunes qui sont très très chers pour les filles par rapport au salaire qu'elles perçoivent. Et ça, c'est aussi un problème de la fédération. Donc on se demande si ce n'est pas un peu la touche finale de cette lutte interne, on a l'impression, de pouvoir de Rubiales contre le foot féminin et qui est un peu contre l'indépendance finalement et la professionnalisation du football féminin.
Ben voilà, vous savez tout sur la crise traversée par la Roja féminine en Espagne. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.